Bonjour à tous. Comment sortir de la crise aux Antilles? Le gouvernement prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, ouvre la voie à un débat sur cette question. Invité de ce journal, Victorin Lurel, sénateur socialiste de la Guadeloupe. Omicron, le nouveau variant du coronavirus qui inquiète le monde. En Europe, la traque au variant Omicron est lancée. Cluster possible à l'aéroport d'Amsterdam et premier cas suspect détecté en Allemagne. Dans ce journal également, manifestation en Burkina Faso, la police anti-émeute est intervenue ce matin. L'affaire Nicolas Hulot qui continue de provoquer beaucoup de réactions. Et nous parlerons du film suprême consacré au groupe NTM. La météo, l'hiver est là avec de la neige à basse altitude et en Outre-mer, Mayotte, placée en vigilance orange, pluie et orage. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, alors que l'Église de France cherche de l'argent pour indemniser les victimes d'abus sexuels, nous verrons qu'il existe à Paris des immeubles de grande valeur qui ne figurent pas dans les comptes du diocèse.
Jacques Monin, secret d'info après ce journal.
France Inter.
L'annonce va-t-elle apaiser les tensions en Guadeloupe après une dizaine de jours de crise et de violence? Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, dans une allocution télévisée cette nuit, affirme que le gouvernement est prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Et ce matin, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, ajoute qu'il faut donner plus de liberté aux Outre-mer. Hier soir, le gouvernement annonçait déjà le report de l'obligation vaccinale au 31 décembre en Martinique et en Guadeloupe. L'exécutif semble lâcher du lest pour calmer la crise. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Et ce matin, la crise et la question de l'autonomie rebondit en métropole dans la classe politique.
Et c'est à droite que les réactions sont les plus vives, avec chez les Républicains un quatuor de candidats à l'investiture pour la présidentielle. Il n'est pas permis de semer le doute sur notre attachement à l'outre-mer, lance Michel Barnier. Le macronisme cède encore face à la rue et les émeutiers, renchérit Éric Ciotti, tandis que Nadine Morano parle de panique du gouvernement. Les Guadeloupéens ne veulent pas moins de soutien d'État. Au contraire, conclut Xavier Bertrand. En face, Sébastien Lecornu assume « Stop aux mensonges », écrit le ministre des Outre-mer sur les réseaux sociaux. Les élus antillais souhaitent que certaines questions, notamment sanitaires, soient à l'avenir traitées localement. Nous ne refusons pas ce débat. Ses conseillers rappellent qu'un exemple existe déjà. En Polynésie, c'est l'Assemblée locale qui décide de la vaccination, sans d'ailleurs réussir à éviter les grèves. Et face au Rassemblement national qui évoque une tentative d'acheter les indépendantistes ou la France insoumise qui parle d'une lamentable volonté d'abandon, eh bien, la majorité rappelle les propositions de création de 1000 emplois pour les jeunes, des solutions au cas par cas pour ceux qui refusent la vaccination et une discussion surtout sur l'ensemble de la crise.
Antoine Gignot, invité de ce journal, Victorin Lurel, sénateur socialiste de la Guadeloupe, ancien ministre des Outre-mer de François Hollande. Bonjour Victorin Lurel.
Bonjour, bonjour à tous.
Le gouvernement est donc prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. On a l'impression que ce mot a jailli un peu par surprise dans la nuit.
Non, pas vraiment. Le gouvernement doit d'abord répondre aux revendications sociales portées par une intersyndicale, ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas encore suffisant, mais le gouvernement a aussi entendu certains élus. C'est vrai que c'est d'abord une demande d'élus, pas forcément celle de la population. Mais vous avez une minorité active, une minorité agissante qui a déclenché cette grève. Une minorité parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner. Une minorité de syndicats dont l'un des thèmes et l'une des phrases de leur statut, c'est l'indépendance nationale. Il faudra un jour courageusement poser la question à la population, aux élus, bref, aux électeurs. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc c'est là qu'on peut toujours dire que le gouvernement cherche un défi bâtif. Il faudra une réforme de la Constitution, ou alors il faudra utiliser ce qui a été utilisé en 2003. Un mauvais projet avait été proposé et la Guadeloupe avait rejeté à 75% une assemblée unique, qui n'était pas de l'autonomie, qui était simplement une réorganisation administrative. Et la Martinique en sait quelque chose, la Guyane aussi, ça n'a jamais empêché les grèves.
Mais vous, Victorin Lurel, est-ce que vous êtes favorable à l'autonomie en Guadeloupe, ou en tout cas en parler maintenant, après 10 jours de crise et de violence?
Je partage une chose avec le ministre, moi je suis un opposant et j'ai voté contre le pass sanitaire, je partage une chose, il n'y a pas de question tabou. Et moi qui suis, qui ai été président de région, je me suis opposé à un mauvais projet en 2003. depuis 20 ans, on me dit, Lurel, c'est vous qui êtes responsable du retard parce que vous êtes un conservateur. Moi, je dis aujourd'hui, il faut crever l'abcès. Il faudra poser la question à toutes celles et tous ceux qui font semblant. Oui, le gouvernement doit mieux répondre sur les structures, sur les inégalités structurelles, sur des structures post-coloniales. Disons très clairement les choses, il faut mieux répondre. Mais puisqu'on veut ce qu'on appelle la domiciliation du pouvoir, c'est ce que qu'a demandé le président de région, membre de l'AREM et membre du comité exécutif de l'AREM, c'est ce que demande le président du conseil départemental, membre de la majorité présidentielle, eh bien, il faut les prendre au mot. Eh bien, monsieur Lecornu les prend au mot et dit, posons aussi la question. Elle ne pourra pas être posée dans le cadre de la résolution immédiate des revendications, mais c'est un sujet qui mérite d'être posé sur la table. C'est vrai que ça n'a pas été demandé par les syndicalistes.
Oui.
Ils ne manqueront pas de le dire. Même si certains comme le GTG, M. de Mota et tous les autres sont pour l'indépendance nationale. Il faudra bien un jour répondre à la question. Et celui qui vous parle, qui a toujours été opposé aux audaces non réfléchies, moi je dis aujourd'hui, il faut trancher le nœud gordien. Et puisqu'on pose la question, ayons le courage d'y répondre, peut-être dans la durée, pour 2027 par exemple, à la prochaine, au prochain renouvellement des institutions régionales et départementales.
Mais sur place, en Guadeloupe, est-ce que cette proposition, cette question de l'autonomie est de nature à calmer les choses? Est-ce que la situation est calme ce matin? Quelles informations avez-vous?
Non, ça va encore diviser davantage, je le crois. D'ailleurs, ce matin, une partie de l'opinion qui est de droite a appelé à une manifestation sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Pour défendre, si j'ose dire, le statu quo.
Aujourd'hui, il y aura une manifestation des partis de droite en Guadeloupe.
Oui, il y a des partisans qui ont peur de cette question-là pour dire qu'à la faveur d'une crise sociale, ce n'est pas le moment de poser une question de gouvernance, d'administration, d'autonomie, voire autre chose. Ils ont peur que ce soit un premier pas et que ce soit l'antichambre d'une possible indépendance demain ou après-demain. Mais c'est compliqué dans la mesure où celles et ceux qui font mine d'être partisans de plus de liberté, lorsqu'on leur pose la question, soit ils ne vont pas voter, ou soit dans le secret des unis votent contre. Moi, je suis partisan, puisque ça fait 20 ans qu'on me fait porter un chapeau. C'est Victorin Lurel qui s'oppose seul à ce qu'il y ait plus de liberté, plus de proximité dans la décision. Eh bien, posons la question. Même si c'est à la faveur d'une crise, c'est vrai qu'il faut associer très étroitement la population. La population doit voter. Et dans le cadre de la loi actuelle, de la Constitution actuelle, l'article 73 de la Constitution, la région Guadeloupe peut demander une habilitation, par exemple, pour gérer l'ARS, pour gérer le système sanitaire, pour être président du conseil de surveillance de l'ARS. Rien ne s'oppose à ça. Lorsque nous-mêmes, nous avons fait 37 propositions, les parlementaires socialistes, le gouvernement n'a pas donné suite. Aujourd'hui, face à l'urgence, le gouvernement répond aux demandes de ses amis politiques. Eh bien, que le gouvernement clarifie la chose, fasse une proposition plus structurée, et puis il verra que la chose est compliquée, que c'est pas comme ça, que... Mais ça fait partie de la panoplie de réponses, ça va pas régler les problèmes, ça va diviser davantage, mais ils ont le courage de poser clairement la question. Et moi, j'avoue que de ce point de vue-là, j'aime la clarté, j'aime la vérité.
Vous nous dites, Victorin Lurel, que cette proposition, cette question de l'autonomie va diviser davantage. On l'a vu aussi en métropole avec Antoine Gignoux à l'instant, l'opposition de droite, mais également la France insoumise est contre cette question de l'autonomie parce qu'on est loin de la pauvreté et des questions importantes qui sont la pauvreté et le chômage.
Oui, mais c'est ça l'ambiguïté des élus nationaux. J'ai entendu M. Ciotti qui est candidat dans sa organisation. Lorsqu'on est au Sénat avec la majorité sénatoriale de droite, on pose des problèmes. Comme avant-hier, on a rédigé quelque chose avec de grands juristes, avec Didier Moss, avec Stéphane Yémer, pour fusionner l'article 73 de la Constitution et l'article 74 qui parle de l'autonomie, par exemple pour la Polynésie. Eh bien, ils votent contre. Quand on leur demande de régler des inégalités, ils votent contre. Quand j'ai fait moi-même avec d'autres la loi pour l'égalité réelle, eh bien, les gouvernements de M. Macron n'ont jamais pris les décrets d'application. Tous ces élus, tous les parlementaires macronistes, eh bien, ont toujours voté les lois. Aujourd'hui, face à une crise sociale, c'est peut-être une solution à déchirer et à déverrouiller l'interprétation très restrictive du Conseil constitutionnel. Lorsque vous demandez de l'adaptation, on vous dit « Ah, ce n'est pas proportionné. Ah, ce n'est pas nécessaire. » Bon, aujourd'hui, c'est à eux à poser le problème. Je leur reconnais un courage. M. Lecornu a entendu ce que ses propres amis ont demandé, Guadeloupe Unie a demandé, le président de région a demandé. Moi-même, j'ai fait des propositions à l'époque, après plusieurs congrès.
Oui.
Au lieu de faire un congrès pour parler gouvernance, on a fait un congrès sur le forum de la santé. Et c'est là qu'ils ont décidé qu'il y avait un pharmacien qui a trouvé une molécule pour guérir du coronavirus. Tout ça, ce sont des approximations, c'est des choses pas très sérieuses. Moi, je suis partisan, au sein de la République française, à poser très clairement la question au Guadeloupe, voulez-vous, oui ou non, rester français ? Voulez-vous, oui ou non, vous assumer ? Voulez-vous, oui ou non, plus d'autonomie ? La question sera au moins claire. Qu'on fixe une date, qu'on fixe un calendrier, pour dire que c'est d'ici 2027, c'est-à-dire dans 6 ans, eh bien, oui, nous poserons la question d'un référendum, pour peut-être être comme la Polynésie, ou peut-être demain, pourquoi pas autre chose. C'est aux Guadeloupéens à décider. La France ne devra pas avoir peur des libertés de poser les questions.
Merci.
Voilà.
Merci, Victorin Lurel.
Moi, j'estime que la question mérite d'être posée et un calendrier doit être arrêté.
Merci, Victorin Lurel, partisan de la clarté. Merci, sénateur socialiste de la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un nouveau variant qui inquiète le monde. Botswana, Hong Kong, Afrique du Sud, Belgique figurent dans la liste des pays où le nouveau variant appelé Omicron a été détecté. Et ce matin, alerte en Allemagne et aux Pays-Bas où 61 passagers en provenance de 2 vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam. On ne sait pas encore si ces personnes ont été contaminées au nouveau variant Omicron. Et en Allemagne, premier cas suspect du nouveau variant a été détecté chez une personne rentrée également récemment d'Afrique du Sud. L'annonce de la découverte de ce nouveau variant préoccupant, selon l'OMS, a contraint plusieurs pays en Europe, en Amérique et en Asie à interdire les vols en provenance d'Afrique australe. Hier soir, la Commission européenne a proposé aux États membres d'activer le frein d'urgence sur les voyages. Sur place à Bruxelles, Pierre Benazé.
Il y a d'abord eu une recommandation de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de suspendre les liaisons aériennes avec l'Afrique australe jusqu'à l'obtention, je cite, d'une meilleure compréhension des dangers d'Omicron. Les pays membres de l'UE se sont ensuite mis d'accord sur le principe de la suspension à 27 des vols avec 7 pays, dont l'Afrique du Sud. Cette mesure fait partie des instruments mis en place par l'Union lors du premier confinement. Plusieurs pays européens avaient accepté la réouverture des frontières externes en contrepartie d'un système dit de freinage d'urgence prévu pour refermer les portes à la moindre alerte. Toute la question est maintenant pour certains de l'opportunité d'une telle mesure, alors qu'Omicron est déjà arrivé en Europe et a été détecté en Belgique et en Allemagne. Les Pays-Bas sont eux en alerte. Ils procèdent à des réexamens des tests PCR de 61 passagers arrivés positifs d'Afrique du Sud. L'idée de refermer les frontières internes de l'Union européenne n'est pour autant pas encore envisagée. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Que sait-on de ce nouveau variant ? De nombreuses zones d'ombre demeurent sur sa contagiosité et ses capacités à échapper au vaccin. À ce jour, les autorités sud-africaines n'ont pas relevé de symptômes spécifiques liés au nouveau variant. Rien ne permet de penser qu'il puisse être plus ou moins dangereux que le variant Delta, mais il faudra néanmoins du temps pour s'en assurer. Le point sur les inconnus du variant Omicron avec Yannick Simonin, virologiste et spécialiste des virus émergents. Il est enseignant-chercheur à l'INSERM, à l'Université de Montpellier.
Ce que l'on sait, c'est que c'est un variant inquiétant, qu'il faut suivre de près. On sait qu'il y a une augmentation assez importante du nombre de cas en Afrique du Sud avec ce variant. Et il y a encore des incertitudes sur est-ce qu'il peut ou pas échapper à la vaccination, est-ce qu'il est ou pas plus virulent que les autres variants, et s'il est plus contagieux et s'il a une capacité d'échappement au vaccin, il deviendra majoritaire. Mais l'avantage que l'on a avec ce nouveau variant, c'est qu'on peut le détecter avec les techniques de PCR habituelles. On a largement progressé au niveau séquençage. Donc au niveau du suivi de ce variant, avec les moyens à disposition, on devrait pouvoir suivre l'évolution des cas assez rapidement.
Yannick Simonin avec Ersin Lebovitch en France. La campagne de rappel du vaccin à la 3e dose débute aujourd'hui pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, et les demandes affluent pour se faire vacciner. Près de 2 400 000 personnes ont pris rendez-vous sur Doctolib ces 2 derniers jours, et exemple dans quelques pharmacies de Valence dans la Drôme, où depuis les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran d'étendre le rappel à tous les majeurs, et bien les pharmaciens sont débordés. Lucie Oconi de France Bleu Drôme-Ardèche.
Entre les rayons de médicaments des clients patientent après avoir reçu leur vaccin, la pharmacienne en a encore 18 à piquer dans l'après-midi.
Là, je vaccine cet après-midi, ça monopolise une personne entière au comptoir. Et hier, j'ai fait du Pfizer toute l'après-midi.
Donc, votre date de naissance ?
18 janvier 59.
Daniel est infirmier, il a pris rendez-vous dans cette pharmacie pour recevoir sa troisième dose, mais son conjoint, lui, va devoir patienter.
On peut plus s'inscrire ? Oui, sur le site de la pharmacie, parce que moi, j'étais passé par là. Parce que mon conjoint a essayé, il ne pouvait pas se connecter.
Heureusement, Daniel a anticipé.
Je vous laisse tenir la manche.
Ah oui, voilà.
De ce côté-là, ça va ?
Oui, ça va. Oui.
Un afflux de patients de plus en plus difficile à gérer pour diriger le gérant de la pharmacie du lycée.
On est au maximum de nos capacités. Les gens viennent spontanément essayer de s'incruster au milieu des prises de rendez-vous. Dieu merci, on a compris qu'on allait rouvrir des centres de vaccination pour nous aider parce qu'à nous seuls, on ne peut pas tout porter entre nous et l'hôpital.
Ici, 4 pharmaciens se relaient pour vacciner contre le Covid 2 à 3 fois par semaine. À cette tâche s'ajoute la vaccination contre la grippe, les tests antigéniques et des formalités administratives liées à l'activité. L'activation du pass sanitaire de plus en plus lourde.
Et puis ce matin, la préfecture de police de Paris a rendu obligatoire le port du masque sur les sites des aéroports d'Île-de-France. Par ailleurs, il n'est plus possible d'accompagner ses proches dans les terminaux, sauf s'il s'agit de mineurs, de personnes vulnérables ou handicapées. L'affaire Nicolas Hulot continue de provoquer beaucoup de réactions. La justice a ouvert hier une enquête préliminaire sur les accusations de viol et d'agression sexuelle visant l'ancien ministre et ancien animateur qui nie farouchement. Au moins 6 femmes, dont une mineure au moment des faits, mettent en cause Nicolas Hulot. Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, estime ce matin que les membres du gouvernement qui avaient apporté leur soutien à Nicolas Hulot en 2018, au moment des révélations du magazine Hebdo et de la plainte pour viol déposée par Pascal Mitterrand, eh bien, ces membres du gouvernement devraient aujourd'hui rendre des comptes.
Ils doivent s'excuser même de ce soutien. En fait, ce qui est très dur, c'est que on n'est pas égal face à la capacité à dénoncer les actes d'agresseurs. C'est plus facile quand vous avez accès à des micros. C'est plus facile quand vous n'avez pas de relation hiérarchique, quand cette personne n'est pas importante. On parle là d'une des personnalités préférées des Français depuis des années. On parle là d'une personne qui était ministre. Et le jour où des accusations émergent, c'est tout le corps de l'État qui se met en branle pour dire « nous sommes derrière lui ». Le Premier ministre, des ministres et même le Président de la République, tout le monde dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Est-ce que vous imaginez le message pour toutes les femmes qui souffrent de violences sexuelles? Le message était très clair, ça leur disait « Si vous voulez nous toucher, nous, nous ferons corps contre vous ».
Sandra Regol avec Myriam Inkoua. La politique ce week-end à une semaine de la désignation du candidat LR à la présidentielle. L'UDI tient aujourd'hui son conseil national, traditionnel allié de la droite. Le parti centriste se prépare à soutenir le futur candidat, mais le parti est aujourd'hui abîmé et les troupes de Jean-Christophe Lagarde embarrassées. Anne Souhaitement.
Le soutien de Lagarde, un cadeau empoisonné. Dans les rangs LR, on riait jaune cette semaine à l'évocation de la future décision de l'UDI. 3 candidats au Congrès ont sollicité le soutien du parti centriste. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Philippe Juvin, tous 3 ont passé leur grand oral. Mais après le dérapage incontrôlé du patron de l'UDI le week-end dernier, agacé par un Zemmour se réclamant du RPR, Jean-Christophe Lagarde imaginait un Charles Pasqua mettant une balle dans la tête du polémiste. La marque UDI n'est pas des plus attractives. Certes, le patron du parti centriste a immédiatement présenté ses excuses, conservé le soutien de ses troupes, mais il a entaché la réputation de son parti, selon un ancien ministre de droite. Un parti, ou en tout cas un patron de parti affaibli, mais peut-on faire sans l'UDI pour conquérir l'Élysée? Dans le camp de Valérie Pécresse, on pense que non, impossible de se passer de son maillage territorial, indique un proche. L'UDI compte 66 parlementaires et 250 maires. Valérie Pécresse aurait même souhaité que les adhérents UDI puissent participer au congrès.
Et on termine avec le choix culturel, avec un film et du hip-hop, avec la naissance du Saint-Saint-Denis Style, au programme du film Suprême, en salle depuis mercredi. La réalisatrice Audrey Estrougo retrace les débuts du groupe NTM, pionnier du hip-hop en France à la fin des années 80, de la rencontre de Joey Starr à Cool Chain, à leur premier zénith, en passant par la sortie du single inaugural Le Monde de Demain et leur signature en maison de disques. Suprême entre dans le club très fermé des biopics utiles et efficaces, Alexis Demeyer.
DJ, breaker, b-boy, graffeur, revivre les premiers cris de Joey Starr et Kool Shen, c'est aussi assister à la naissance de l'art de rue made in France. Caméra à l'épaule, très gros plan sur les visages, séquences qui s'étirent pour nous permettre de prendre toute la mesure des performances scéniques. Audrey Estrougo a opté pour une mise en scène fiévreuse.
L'idée du mouvement vient du fait de vouloir être au plus près de cette énergie et cette ébullition tout le temps, donc on peut pas être figé, c'est impossible. On parle d'un mouvement musical, on parle d'un mouvement sociétal. Le rap est sorti de terre et puis après il est rentré un peu dans quelque chose de plus professionnel.
Authentique car j'appartiens à la race de ceux qui restent à l'écart, radicalement opposés, sensationnels.
Les deux leaders d'NTM ont participé à l'écriture du scénario, contribuant au réalisme du projet et notamment des scènes les plus intimes. Joey Starr.
Moi, je lui ai fait confiance dès le départ. Je lui ai fait les clés du vaisseau et il n'y a pas eu réellement débat sur tous les choix qu'elle a voulu faire. Et à l'arrivée, je trouve que tous les comédiens sont généreux, que ce soit les premiers, second rôle. L'image est généreuse, l'intention est généreuse. On n'est pas du tout dans un truc victimaire. On est dans une ode à la vie pour moi, à la jeunesse et ainsi de suite.
L'utilisation par Audrey Estrougo d'images d'archives sur fond de violences policières nous rappelle d'ailleurs qu'NTM est le fruit d'un climat social particulièrement caniculaire du côté de Saint-Denis.
La Suprême et NTM d'Audrey Estrougo. Le temps pour demain et pour les heures qui viennent.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Les bords de la Méditerranée vont sortir du lot cet après-midi avec un ciel relativement clément dans des températures de 10 à 15 degrés, mais le Mistral et la Tramontane seront bien établis. Ailleurs, le vent sensible orienté au nord va s'accompagner d'un ciel souvent menaçant avec des précipitations à caractère hivernal sous forme d'averses et parfois d'orages, avec possibilité de neige fondante sur les régions de plaine du nord et du nord-est et de la neige à très basse altitude sur l'ensemble des massifs, le tout dans des températures plafonnant entre 4 et 7 degrés. Demain, amélioration par la façade océanique. Les bords de la Méditerranée vont conserver un ciel serein, mais ailleurs il faudra composer avec une ambiance maussade, neigeuse sur les massifs, toujours à très basse altitude, avec par accumulation des quantités de neige importantes vers le Limousin, le Jura, le nord des Alpes et sur la chaîne des Pyrénées, sans oublier le vent très turbulent de la Bretagne à l'Aquitaine et du Golfe du Lion à la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France.